Quatrième partie. Déesse. Une étrangère brune et de haute taille vous rendra visite, dit la gitane à Misery. Et Misery, surprise, prit conscience de deux choses à la fois. Cette femme n'était pas une bohémienne, et elle n'était plus seule dans la tente. Elle sentit le parfum de Gwendoline Chastain, juste avant que les mains de cette folle ne se refermassent autour de sa gorge. En fait, remarqua la bohémienne, qui n'en était pas une, je crois qu'elle est déjà là. Misery voulut hurler, mais elle ne pouvait déjà plus respirer. Misery's child. Elle a tout juste là, patou, Yann, dit Ezekiel. On peut la regarder, de patou, elle vous regarde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les boucas, ils disent quand même, quand on est des. La déesse, on dirait qu'elle vous regarde. Après tout, ce n'est que de la pierre, objecta Yann. Oui, patron Yann. C'est pour ça qu'elle a le pouvoir. Le retour de Misery. Numéro 1. Fidé. Mira. Numéro 1. Ces sons, même dans la brume. Maintenant je dois rincer, dit-elle, et voici comment le rinçage s'est passé. 9 mois après que Wicks et McKnight l'eurent emporté de la maison d'Annie sur une civière de fortune, Paul Sheldon partageait son temps entre le Doctor's Hospital de Queens et son nouvel appartement de Manhattan, Est. Il avait fallu lui recasser les jambes. La gauche se trouvait encore prise dans un plâtre qui lui montait jusqu'aux genoux. Il marcherait en boitant pendant le reste de sa vie, il avait averti les médecins, mais il marcherait et finirait même par marcher sans avoir mal. Sa claudication aurait d'ailleurs été plus prononcée s'il avait dû marcher sur son propre pied et non pas sur une prothèse faite sur mesure. À sa manière, qui ne manquait pas d'ironie, Annie lui avait rendu service. Il buvait trop, n'écrivait rien. Il faisait de mauvais rêves. Lorsqu'il sortit de l'ascenseur du 9e étage, un bel après-midi de mai, pour une fois il ne pensait pas à Annie, mais au volumineux et embarrassant paquet placé sous son bras. Il contenait deux jeux d'épreuves du retour de Misery. Ses éditeurs n'avaient pas lésiné pour cet ouvrage. Et étant donné les étranges circonstances dans lesquelles il avait été écrit, et surtout évidemment les manchettes de journaux que son histoire lui avait valu dans le monde entier, ce n'était pas surprenant. Hastings House avait décidé d'un premier tirage de 1 million d'exemplaires, chiffre sans précédent dans la maison. Et ce n'est que le commencement, lui avait dit son directeur littéraire, Charlie Merrill, lors du déjeuner qu'ils avaient pris ensemble le jour même, et dont Paul revenait avec les épreuves. « Ce livre va pulvériser tous les records de vente mondiaux, mon vieux. Nous devrions tous être à genoux et remercier Dieu que l'histoire qu'il raconte soit presque aussi bonne que l'histoire derrière le livre. » Paul ignorait ce qu'il en était, et en réalité ne s'en souciait plus. Il ne désirait qu'une chose, laisser tout cela derrière lui. Et trouver le thème de son prochain livre. Mais les jours, puis les semaines, et bientôt les mois passèrent, et rien ne venait. Et il avait commencé à se demander s'il y aurait un jour un autre livre de lui. Charlie le suppliait de lui donner un récit non romancé de son calvaire. Un tel livre, lui prédisait-il, battrait même les records de vente du Retour de Misery. Battrait jusqu'à la célèbre autobiographie de Lee Iaoka. Lorsque Paul lui avait demandé, par simple curiosité, combien pourrait rapporter les droits d'une publication en poche, Charlie avait chassé la longue mèche qui retombait sur son front, allumé une camelle et répondu « Je crois que nous pourrions faire une mise à prix à 10 millions de dollars et nous n'aurions qu'à laisser monter les enchères. » Il n'eut pas un battement de paupières en lâchant ce chiffre, Au bout d'un instant, Paul comprit qu'il était sérieux, ou du moins croyait l'être. Mais il était exclu pour lui d'écrire un tel livre, en tout cas pas encore, et probablement jamais. Son boulot, c'était de faire des romans. Il aurait pu rédiger le compte-rendu que lui réclamait Charlie, mais cela reviendrait à admettre vis-à-vis de lui-même que plus jamais il n'écrirait un roman. Le gag, c'est que ce serait un roman, faillit-il dire à Charlie Merrill. Mais au dernier moment, il se retint. Le gag, c'est que Charlie s'en serait complètement fichu. Ça commencerait comme un récit vécu normal. Puis je me mettrais à l'enjoliver, juste un peu, au début, davantage au bout d'un moment. Pas pour me donner le beau rôle, ce que je ferais sans doute de toute façon, ni faire paraître Annie encore plus abominable, ce ne serait pas possible. Simplement pour obtenir cette rondeur du récit. Je refuse de me transformer en personnage de fiction, l'écriture est peut-être une activité masturbatoire, mais Dieu me garde de sombrer dans l'auto-cannibalisme. Il avait l'appartement 9E, le plus éloigné de l'ascenseur, et le couloir aujourd'hui lui paraissait ne plus en finir. Il entreprit néanmoins le parcours, serrant les dents, une canne à pommeau en forme de T dans chaque main. Clac, clac, clac. Bon Dieu, il avait ce bruit en horreur. Ses jambes lui faisaient souffrir l'enfer, et il était en manque de Novril. Il lui arrivait parfois de se dire qu'il aurait mieux valu être avec Annie, rien que pour retrouver sa drogue. Les médecins l'avaient sevré. L'agneau lui servait de substitut. Et lorsqu'il serait chez lui, il commencerait par se servir un double bourbon. Puis il regarderait l'écran vide de sa machine à traitement de texte pendant un moment. Quelle rigolade! Le presse-papier à 15 000 dollars de Paul Sheldon. Clac, 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 clac. Problème. Comment sortir les clés de ses poches sans faire tomber l'une de ses cannes, les deux, ou l'enveloppe de papier bulle dans laquelle se trouvaient les jeux d'épreuve? Il commença par appuyer les deux cannes contre le mur. Mais dans le mouvement, la grosse enveloppe glissa dessous son bras, tomba sur la moquette et se déchira en deux. « Et merde » grommela-t-il. Là-dessus, les deux cannes s'effondrèrent à leur tour avec des claquements secs. Encore plus drôle. Paul ferma les yeux, se balançant dans un équilibre précaire sur ses jambes tordues et douloureuses, attendant de voir s'il allait piquer sa crise ou fondre en larmes. Il espérait piquer sa crise. Il ne voulait pas se mettre à pleurer ici, dans le couloir, mais ce n'était pas exclu. Ça lui était arrivé. Ses jambes lui faisaient constamment mal et il voulait sa drogue, non l'espèce d'aspirine vitaminée qu'on lui donnait au dispensaire de l'hôpital. Il voulait sa bonne drogue, son nani drogue. Et aussi, il était tellement fatigué tout le temps, tellement fatigué. Ce dont il avait besoin pour tenir debout, ce n'était pas ces deux bâtons merdiques, mais de retrouver ses jeux, ses... Il était une fois, ses histoires. Ça, c'était de la bonne came. Ça, c'était de la picouse qui marchait toujours. Mais ses histoires l'avaient fui, toutes. La récré paraissait finalement belle et bien terminée. C'est ce qui arrive après la fin, pensa-t-il, en ouvrant la porte. Il claudiqua dans l'appartement. C'est pour cela que personne n'écrit jamais ce qui arrive après. C'est trop foutrement légume. Elle aurait dû mourir après le coup des boules de papier dans la bouche. Et j'aurais dû mourir aussi. À ce moment-là, plus que jamais, nous étions comme les personnages des feuilletons qu'aimait Annie. Mais pas gris. Mais noir et blanc. Bon et méchant. J'étais Geoffrey et elle était la déesse abeille des Burkas. Tandis que... Je sais bien ce qu'est un dénouement, mais... Ceci est ridicule. Sans parler de tout ce caca répandu sur le plancher, champagne caca, morceaux de verre caca, papier brûlé caca. Tout d'abord, être un bon garçon, puis... Il s'immobilisa. Il venait de se rendre compte que l'appartement était trop sombre. Il y avait une odeur. Une odeur qu'il connaissait. Un mélange mortel de poussière et de poudre de riz. Annie se dressa de derrière le canapé comme un fantôme livide, en tenue d'infirmière, coiffe comprise. Elle tenait la hache dans sa main et criait « C'est le moment de rincer, Paul. C'est le moment de rincer !» Il poussa un hurlement et tenta un demi-tour maladroit sur ses mauvaises jambes. Elle bondit par-dessus le canapé en force, lourdement, semblable à une grenouille albinos. Son uniforme en pesait bruissait avec de petits craquements. Le premier moulinet de la hache ne fit que lui couper la respiration. Ce fut ce qu'il crut sincèrement jusqu'au moment où il atterrit sur le tapis, le goût de son propre sang dans la bouche. Il abaissa les yeux et vit qu'il était presque coupé en deux. « Rincez !» vociféra-t-elle. Et sa main droite disparut. « Rincez !» hurla-t-elle à nouveau. Il n'eut plus de main gauche. Il rampa vers la porte sur les moignons sanguinolents de ses poignets. Chose extraordinaire, les épreuves se trouvaient toujours là. Ces épreuves que Charlie lui avait données lors du déjeuner chez Lee. Il se le rappelait, lui tendant l'enveloppe de papier bulle par-dessus la nappe blanche impeccable, tandis qu'un haut-parleur invisible déversait confidentiellement une musique sirupeuse. « Vous pouvez le lire maintenant, Annie !» voulut-il lui crier, mais seulement « Vous pouvez !» sortit de sa bouche. Sa tête venait de s'envoler pour aller rouler contre le mur. La dernière et obscure vision du monde qu'il eut fut celle de son propre corps qui s'effondrait et des chaussures blanches d'Annie debout à côté. « Déesse » pensa-t-il. Et il mourut. Scénario. Action, argument d'une pièce de théâtre. Petit Robert. Écrivain. Personne qui compose des ouvrages littéraires. Petit Robert. Trompe-l'œil. Apparence trompeuse, chose qui fait illusion. Petit Robert. Polly, sauras-tu ? Oui, bien sûr, il saurait. Le scénario de l'écrivain voulait que Annie fût encore en vie, même si celui-ci comprenait que ce n'était qu'un trompe-l'œil. Il avait réellement déjeuné avec Charlie Merrill, et la conversation s'était bien déroulée ainsi. Sauf que lorsqu'il était entré dans son appartement, il avait compris que c'était à la femme de ménage qu'il devait les rideaux tirer. Lorsqu'il était tombé et avait dû étouffer un cri d'effroi en voyant Annie surgir de derrière le sofa, il avait su tout de suite que c'était le chat, un siamois louche du nom de Dumpster, qu'il avait récupéré un mois avant la fourrière. Il n'y avait pas d'Annie, car Annie n'avait jamais été une déesse, rien qu'une cinglée ayant fait souffrir Paul pour des raisons connues d'elle seule. Annie avait réussi à se débarrasser de presque tout le papier qu'il avait enfoncé dans sa gorge et sa bouche, ainsi qu'à sortir par la fenêtre de la chambre d'amis pendant que Paul dormait du sommeil épais de la drogue. Elle s'était traînée jusqu'à la grange, où elle avait fini par s'effondrer. Elle était morte lorsque Wicks et McKnight l'avaient retrouvée, mais pas d'étranglement. Elle était en fait passée de vie à trépas des suites de la fracture du crâne qu'elle s'était faite en heurtant le montant de la cheminée lorsqu'elle avait trébuché sur la machine à écrire. D'une certaine manière, elle avait été tuée par l'engin que Paul avait tellement haï. N'empêche qu'elle avait eu des projets pour lui avant de mourir. Et la hache n'y aurait pas suffi cette fois. Les policiers l'avaient retrouvée à l'extérieur de l'enclos du cochon Misery, la main sur la poignée de la tronçonneuse. Tout cela était du passé maintenant. Annie Wilkes gisait dans sa tombe. Mais comme Misery Chastain, elle n'y reposait pas en paix. Dans ses rêves nocturnes comme dans ses songes diurnes, il ne cessait de l'exhumer encore et toujours. On ne pouvait tuer la déesse. La sonner temporairement au Bourbon, peut-être, mais c'était tout. Il alla jusqu'au bar, regarda la bouteille, puis se retourna pour contempler le tas formé par ses cannes et les jeux d'épreuve. Il adressa un signe de revoir à la bouteille et retourna péniblement vers la porte. Rincé. Une demi-heure plus tard, il se retrouvait assis devant l'écran blanc, à se dire qu'il devait avoir le goût morbide de l'autopunition. Il avait pris de l'aspirine au lieu d'alcool. Mais ça ne changeait rien à ce qui allait se passer maintenant. Il s'agissait de rester assis à cette place pendant un quart d'heure, ou peut-être même 30 minutes, à ne rien regarder d'autre que le curseur noir au début d'une phrase qui ne venait pas. Après quoi, il éteindrait l'appareil et prendrait son verre. Sauf qu'il avait vu quelque chose de marrant en revenant du déjeuner avec Charlie, et que ce quelque chose de marrant lui avait donné une idée. Pas une grande idée, rien qu'une petite. Après tout, il s'agissait d'un incident mineur. Simplement, un gamin poussant un caddie de supermarché dans la 48e rue, avec dedans une cage. Et dans la cage, un assez gros animal à fourrure que Paul avait tout d'abord pris pour un chat. Le regardant de plus près, il avait vu la longue bande blanche qui courait sur le dos de la bête. Liston, avait-il dit, c'est bien une moufette, non ? Ouais, avait répondu le gamin, qui s'était mis à accélérer le pas. C'est pas le genre en ville de s'arrêter pour avoir de longues conversations avec des inconnus, en particulier avec des types bizarres qui ont des poches sous les yeux grandes comme des valises et qui traînent avec des cannes en alu. L'enfant et le caddie disparurent au coin de rue suivant. Paul continua, rêvant de prendre un taxi. Mais il était supposé parcourir au moins 1,5 km chaque jour, et c'était justement l'heure de sa marche quotidienne qui, aujourd'hui, lui faisait souffrir l'enfer. Si bien que pour ne plus y penser, il avait commencé à se demander d'où ce gamin pouvait bien sortir, d'où provenait le caddie et surtout, comment il avait dégoté la moufette. Il entendit un bruit derrière lui et se détournant de l'écran blanc, il vit Annie, qui sortait de la cuisine, habillée d'un jean et d'une grosse chemise de bûcheron à carreaux rouges, la tronçonneuse à la main. Il ferma les yeux, les rouvrit, vit que, comme d'habitude, il n'y avait rien, et fut pris d'une colère soudaine. Il revint au traitement de texte et se mit à écrire vite, enfonçant brutalement les touches. Chapitre 1. Le gamin entendit un bruit à l'arrière du bâtiment. L'idée qu'il s'agissait de rats lui vint à l'esprit, ce qui ne l'empêcha pas de tourner à l'angle. Il était encore trop tôt pour rentrer à la maison, l'école n'ouvrant pas ses portes avant 1 heure. Il avait sauté la cantine et faisait l'école buissonnière. Ce qu'il vit alors, massé contre le mur dans un rayon de soleil poussiéreux, n'était pas un rat, mais un énorme chat noir, avec la queue la plus touffue qu'il eût jamais vue. Il s'arrêta, le cœur battant tout d'un coup. Polly, sauras-tu ? C'était une question à laquelle il n'osa pas répondre. Il se pencha de nouveau sur le clavier et au bout de quelques instants recommença à appuyer sur les touches, mais plus doucement cette fois. Chapitre 2. Ce n'était pas un chat. Eddie Desmond avait passé toute sa vie dans la ville de New York, mais il avait visité le zoo du Bronx, et bon sang, il avait des livres d'images, non ? Il savait ce qu'était cet animal, même s'il n'avait pas la moindre idée sur la façon dont il s'était retrouvé dans l'immeuble désert de la 105e rue Est. La longue bande blanche le trahissait définitivement. Il s'agissait d'une moufette. Eddie s'avança doucement dans sa direction, ses chaussures écrasant la poussière de plâtre. Il savait. Il pouvait. C'est pourquoi il continua plein de gratitude et de terreur. Le trou s'était ouvert et Paul regardait ce qu'il y avait dedans, n'ayant plus conscience de ses doigts frappant de plus en plus vite, n'ayant pas conscience que ses jambes douloureuses se trouvaient dans la même ville, mais à 50 coins de rue de là, n'ayant pas conscience des larmes qui coulaient pendant qu'il écrivait. Lowell, Maine, 23 septembre 1984. Bangor, Maine, 7 octobre 1986. Maintenant, mon histoire est finie.